Une minute, Nelson.
Radio Frontières, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
17h42, chers abonnés, chers auditeurs, coup d'envoi, c'est parti.
Coup d'envoi, de 15h à 16h, Guillaume Fouqueteau.
Bonjour à tous, chers abonnés, chers auditeurs, nous sommes vendredi, il est 17h42, quel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro exceptionnel dans Coup d'envoi, et dans un instant, on aura un invité de marque, sans doute le plus bel All-Star de l'histoire de l'émission, mais juste avant, bonjour mon cher Jérémy, comment vas-tu ?
Bonjour Guillaume, bonjour à tous les auditeurs, ça va très bien, merci.
Et ravi de t'accueillir comme d'habitude, vous voyez la chaise d'Alexander Nikolic qui pour l'heure est en retard, comme d'habitude, j'ai presque envie de dire, ne vous inquiétez pas, il va pas tarder. Et je le disais à l'instant, nous avons l'immense plaisir, le privilège d'accueillir tout de suite Nelson Monfort. Bonjour Nelson, comment allez-vous ?
Bonjour Guillaume, bonjour à vous tous.
C'est un véritable plaisir de vous accueillir, Nelson Monfort. Vous êtes en direct dans Coup d'envoi pour Radio Frontières. Vraiment, je suis pas peu fier d'avoir réussi à vous inviter, Nelson Monfort. Une vie extraordinaire. Hein. Vous étiez un des pontes du journalisme sportif de France Télévisions. On connaissait votre fibre du langage absolument merveilleuse concernant Roland Garros ou encore le patinage avec Philippe Candeloro, que nous avons d'ailleurs reçu il y a quelques semaines. Philippe Candeloro, l'émission était vraiment extrêmement sympathique à suivre. Bon. Nelson Monfort, votre vie aujourd'hui, après ce départ de France Télévisions, vous avez rejoint CNews, comment ça se passe en ce moment ?
Ben, ça se passe très bien, puisque c'est vrai que mes amis de CNews m'ont vraiment très très bien accueilli, très très chaleureusement accueilli, ça fait maintenant 3 ou 4 mois. Et puis dernièrement, et ça a été un vrai bonheur, j'ai suivi le tournoi de Roland Garros pour eux, dans une rubrique le matin aux côtés de Romain Desarbes, que vous connaissez sûrement, qui s'appelait Jeu 7 et Monfort. Voilà, Roland Garros d'hier et d'aujourd'hui. Sachant que voilà, les joueurs d'hier, comme pas mal de choses d'ailleurs, sont peut-être plus connus et plus aimés que les joueurs d'aujourd'hui. Et voilà, ça a été un vrai bonheur et peut-être que d'autres surprises arrivent. Voilà.
Alors Nelson, est-ce que vous pouvez me parler de cette transition maintenant ? Vous passez de l'homme derrière la caméra dans les studios à un homme de scène, hein, Festival des Arts avec Nelson Monfort et Philippe Candeloro. Est-ce que vous pouvez me parler de cette passion pour le théâtre ?
Eh bien écoutez, là nous sommes en direct, ça n'a pas été sans mal d'ailleurs, mais je suis très heureux de vous répondre. D'ailleurs c'est amusant parce que vous voyez le fauteuil derrière moi, c'est le fameux verre du théâtre, vous savez, et donc oui, c'est une pièce de théâtre que nous jouons avec Philippe depuis maintenant presque 2 ans, qui s'appelle « Sapatine à Tokyo ». Et qui est une comédie policière écrite par un duo de jeunes auteurs, Hugo Crémaski et Julien Grange. Bon, alors, le temps qui nous est imparti va m'interdire de vous détailler la pièce dans les détails, mais disons que voilà, il y a plein de rebondissements. Ça se passe dans le cadre d'un championnat du monde de patinage à Tokyo, au Japon. On retrouve dans le. J'en ris moi-même parce que on retrouve ce qu'on pense être un cadavre. En fait, c'est un corps inanimé dans la baignoire de la salle de bain de Philippe Candeloro au Tokyo Grand Hotel. Or, il se trouve que ce personnage n'est autre que le patineur français qui doit jouer le titre le soir même contre un patineur japonais, les Yakuza. Vous savez, les terribles japonais, bandits japonais ne l'entendent pas cette oreille, et c'est le départ de l'action, qui naturellement se termine bien, comme vous pouvez le penser.
Absolument, absolument. Est-ce que vous pouvez me parler de cette mue également dans le journalisme dit de droite à CNews, hein, ce poste d'éditorialiste, de chroniqueur. Comment ça s'est déroulé, cher Nelson ?
Écoutez, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai été accueilli à bras ouverts, avec des gens d'une élégance et d'une, comment dire, à la fois, leur élégance n'est pas que vestimentaire. Je n'ai pas l'impression du tout de travailler sur une chaîne de droite et encore moins d'extrême droite. Je suis très heureux d'être là. Il se trouve que, comme vous le savez, cette chaîne recueille un succès très très important auprès du public, et surtout je n'ai pas du tout le sentiment de me trahir par rapport à ce que je faisais avant. Je suis simplement quelqu'un d'honnête, en tout cas j'essaie d'être le plus honnête possible, et ça se passe vraiment très très bien depuis maintenant 3 ou 4 mois.
Est-ce que c'était important pour vous, Nelson, d'aller vers un rôle de journalisme politique, de commentaire d'actualité ?
Si vous voulez, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec le terme de journaliste sportif, que je trouve un peu réducteur. Enfin, ceux qui me connaissent savent que les États-Unis, c'est mon deuxième pays, donc de m'exprimer sur la politique américaine que je suis depuis 40 ans n'est pas un exercice impossible pour moi. Si ça l'était, je ne le ferais pas. Donc, sur tous les sujets sur lesquels on peut m'interroger, que ce soit des sujets de société, de sport, bien sûr, ou je dirais de vintage, d'un petit peu de la France d'avant, etc. Enfin voilà. Et surtout les États-Unis, où j'interviens vraiment très régulièrement, eh bien, mon Dieu, je me sens plutôt à l'aise, même très à l'aise pour le faire. Donc voilà, mais même lorsque j'étais à 100% assimilé à un journaliste de sport, je pense que les gens savaient que qu'il n'est pas interdit de s'intéresser à d'autres sujets aussi, et notamment la politique américaine, qui est mon deuxième pays.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander, Nelson, un peu à l'image de ma question envers Philippe Candeloro, comment s'est passé ce départ de France Télévisions? Est-ce que tout s'est fait dans les règles? Est-ce que vous avez encore de bons rapports peut-être avec Delphine Ernotte?
Tout s'est fait dans les... Me concernant, en tout cas, tout s'est fait dans les règles. Je pensais, je veux vous répondre très honnêtement, hein, Guillaume, je pensais qu'effectivement qu'après les JO de Paris 2024, le temps passe si vite, qu'après les Jeux de Paris 2024, qu'il était temps, disons, de tirer une certaine forme de révérence. Et c'est ce qui a été le cas. Je me disais, je n'allais pas, si vous voulez, faire des interviews à Roland-Garros ou au championnat d'athlétisme ou de natation ou de patinage, que sais-je, jusqu'à l'âge de 75 ans ou 80 ans, ça n'aurait pas eu de sens. Donc je trouvais, il y avait aussi une phrase, et je pense que cette phrase va vous plaire, partir quand il fait beau. Je ne voulais pas m'accrocher aux branches, je ne voulais pas, j'ai vu parfois certaines personnes le faire, moi je ne voulais pas de ça. Et donc voilà, aujourd'hui je suis très heureux, cette collaboration me rend très heureux, cette pièce de théâtre dont on vient de parler me rend également très heureux. Je suis également en train d'écrire je devrais pas trop le dire, mais je suis en train d'écrire un livre de souvenirs. Voilà, il y a plein de choses qui me rendent très heureux. Et je vais vous dire même une petite phrase qui, je pense, va vous interpeller, ainsi peut-être que ceux qui nous font l'amitié de nous suivre. Peut-être que le téléphone sonne moins, mais il sonne mieux.
C'est très joliment dit, ça. Il vaut mieux des bons contacts plutôt que des contacts médisants. Mon chroniqueur, Jérémy Bouillet, a une question pour vous.
Oui, Nelson, bon, pardon de revenir sur... Donc effectivement, vous l'avez souligné, vous avez fait vivre aux Français tant de Jeux Olympiques, de Roland-Garros, de Championnats du Monde dans des sports si différents. Mais comment avez-vous vécu, donc à titre personnel, ces magnifiques Jeux Olympiques de Cortina? Nous, on s'est senti orphelins. On a vécu des grands Jeux Olympiques à la télé, mais on s'est quand même senti un petit peu orphelins. Vous-même, comment avez-vous vécu cette quinzaine et cette Olympiade si particulière pour vous, puisque c'était la première fois que vous n'étiez pas présent?
Alors déjà, Jérémy, je vous remercie pour ce que vous venez de dire. Effectivement, ma modestie dut-elle en souffrir, et celle de Philippe aussi, je crois pouvoir dire qu'on nous regrette, effectivement. Ça, c'est un fait. Alors, je serais quelqu'un de complètement inhumain et sans aucun cœur que de dire que c'est passé comme ça, comme de l'eau sur le rocher. Non, bien entendu, j'ai suivi ça à distance. De dire que j'aurais, mais c'est la même chose pour le tournoi de tennis de Roland Garros, c'est la même chose pour, c'est, j'ai quand même eu la chance de collaborer à 16 Jeux Olympiques, hein, 8 d'hiver et 8 d'été. Je ne pense pas qu'enfin, je sais pas si c'est un record, mais enfin, en tout cas, je pense pas qu'on doit être si nombreux, et 16 Jeux Olympiques sans avoir jamais obtenu la moindre médaille d'or. Mais j'ai obtenu la médaille d'or du public. Et ça, c'est ma plus belle satisfaction. Donc oui, pour répondre directement à votre question, je suis ça avec passion. Évidemment, moins concerné que lorsque j'en étais le commentateur. Mais voilà, je pense qu'on a, quand on a cette passion, elle ne vous abandonne jamais.
Cher Nelson,
savez,
petite...
Je suis... Ah, allez-y, pardon, continue. Non, ce que je voulais ajouter...
Bien sûr, on attend.
Oui, concernant notamment le tournoi de Roland-Garros, je suis très heureux, je suis très à l'aise pour vous en parler, parce que bien avant de suivre ce tournoi professionnellement, j'assistais à ce tournoi, je payais ma place pour venir assister à ce tournoi. Donc le tournoi de Roland-Garros m'a accompagné professionnellement pendant 30 ans, mais m'a accompagné personnellement pendant, je dirais, 50 ans. Entre parenthèses, ça va vous faire sourire parce que vous êtes évidemment très jeunes l'un et l'autre, mais on pouvait trouver, ça va vous faire sourire, on pouvait trouver de la place pour les demi-finales demi-finale ou la finale le jour même au guichet. Je dis bien au guichet. Aujourd'hui, tout ceci est naturellement totalement hors de propos. Mais voilà, c'est pour vous dire que sur les différents événements, peut-être pas les Jeux Olympiques au Japon, mais la plupart des événements, en tout cas en France et proche, j'étais spectateur et spectateur payant avant d'être commentateur ou présentateur ou intervieweur.
Alors, transition toute trouvée, mon cher Nelson, est-ce que je peux vous demander votre avis sur le tennis français actuel? On sait que Arthur Fils fait figure d'égérie, en tout cas d'une sorte d'étoile dans la brume, avec des performances du tennis français qui sont loin d'être à la hauteur aujourd'hui. Arthur Fils avait déclaré forfait pour Roland-Garros, ça sent un peu la même chose d'ailleurs pour Wimbledon, là il a déclaré forfait pour Halleux ou encore pour le Queens. La situation du tennis français aujourd'hui, Nelson Monfort, votre avis?
Alors, il y a deux choses. Il y a le tennis masculin et le tennis féminin. Le tennis masculin, vous venez de citer effectivement Arthur Fils. On peut parler de Kwame, on peut parler peut-être d'Hugo Humbert, plus à l'aise sur les surfaces rapides. Enfin bref, il y a 4-5 joueurs de Mpetshi Pericard, je vous cite un joueur peut-être un peu moins connu, mais enfin, tous ces joueurs-là sont grosso modo à peu près dans le top 30. Donc, je pense que voilà, qu'un jour ou l'autre, nous aurons une belle performance de l'un ou peut-être plusieurs d'entre eux. Quand je dis belle performance, le seul problème, c'est que le tournoi de tennis de Roland-Garros prend tellement de place auprès du public français que vous pouvez gagner tous les tours, enfin gagner, aller peut-être en demi-finale de Halle que vous venez de citer ou en finale du tournoi de Kitzbühel ou de Bastad en Suède, enfin, ou sans parler de la tournée américaine ou même sud-américaine, ça n'aura évidemment pas le même impact qu'une place déjà ne serait-ce qu'en deuxième semaine à Roland-Garros. Or, cette année, ça n'a pas été le cas, ni chez les garçons, ni chez les filles. Il y a cette fameuse expression qui va vous faire sourire, mais je pense que vous la connaissez. On sait que l'été commence quand on entend la fameuse phrase « plus de Français à Roland-Garros ». Donc, disons que
la plupart du temps, c'est avant la deuxième semaine, hein.
C'est lundi soir à 19h.
Oui, en dehors de l'année dernière où la jeune Loïse Boisson a fait un parcours magnifique en allant en demi-finale depuis 4 ans, comme je savais que cette question allait être posée, j'ai à peu près vérifié mes informations. Il n'y a pas un seul Français qui atteint les huitièmes de finale. Donc voilà, c'est hélas. Alors pour répondre à votre question, je pense que chez les garçons, effectivement, le forfait d'Arthur Fils a été très préjudiciable, d'autant qu'en plus avec les forfaits d'Alcaraz, l'élimination prématurée de Sinner, je pense que Fils avait peut-être un rôle à jouer, mais ça, ce n'est pas la peine de vivre de regrets. En revanche, chez les filles, je suis vraiment carrément très inquiet, très très inquiet sur le tennis féminin français.
Alexander Nikolic, eurodéputé du Rassemblement National, qui vient de nous rejoindre, mon deuxième chroniqueur. Une question pour Nelson Monfort, Alexander.
Juste pour rebondir, déjà bonjour Monsieur Monfort, c'est un honneur.
Bonjour.
Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, est-ce que pour vous c'est un problème plus profond? Parce que là vous sembliez dire que c'est surtout que il manque de chance parce qu'à Roland-Garros il ne brille pas, mais on a des joueurs de qualité. Or, quand on regarde vraiment, c'est pas comme si c'était une Coupe du Monde où on peut se rater sur une Coupe du Monde qui revient tous les 4 ans. Évidemment, non seulement Roland-Garros, c'est tous les ans, mais il y a 4 grands chelems, il y a des Masters 1000, au nombre de 9, je crois, il y a les Masters en fin d'année, et ça fait des années et des années qu'on n'arrive plus à gagner ce type de tournoi, contrairement à presque tous les autres sports, on arrive à surperformer. Est-ce que pour vous, il y a un problème plus profond ou non, c'est que systématiquement, ils ont de la malchance sur les tirages ou sur leur pic de forme sur les grands chelems et les Masters 1000?
Je vois que j'ai affaire à un spécialiste.
Hein. Ça, c'est une certitude. Hein.
Vous connaissez très, très bien le tennis. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Parfois, il y a deux choses. La première, c'est que si on considère tout ce que je viens de dire il y a quelques minutes, le tournoi Roland-Garros comme le must pour un joueur français, il y a en fait assez peu de tournois sur terre battue. Du coup, les joueurs français s'entraînent relativement peu sur terre battue. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, alors je sais évidemment que les joueurs n'aiment pas trop qu'on dise ça, mais je pense quand même qu'il y a une pression supplémentaire, une pression très forte. Et que certains joueurs ont du mal à la supporter, tout simplement. Alors évidemment, les joueurs ne vont pas vous dire ça, évidemment, mais la génération actuelle des tennismen et tenniswomen français a du mal dans les tournois à domicile, enfin, et surtout au tournoi de Roland-Garros. Je me répète un petit peu, mais imaginez simplement qu'Arthur Fils, ce qu'on peut lui souhaiter, que l'année prochaine aille en quart, voire en demi-finale de Roland-Garros. Je ne vous parle pas de la victoire finale, mais en demi-finale de Roland-Garros. Vous imaginez l'impact que ça aurait?
Et le public français demande que ça, d'ailleurs, une véritable épopée, pouvoir vraiment se grandir derrière un joueur, être capable de se fédérer autour d'une cause, un peu comme lorsque l'équipe de France est brillante en Coupe du Monde ou lorsqu'un Français est performant sur le Tour de France. Le peuple français, les aficionados du tennis ont besoin de ça, d'être capable de se fédérer autour d'un joueur, Nelson.
Vous avez tout à fait raison, d'un joueur ou d'une joueuse, il suffit de voir encore l'impact de Loïs Boisson l'an dernier. On a l'impression que c'était il y a très longtemps, malheureusement. Vous avez tout à fait raison, le public ne demande que ça. Et le public de Roland-Garros, moi j'ai beaucoup de sympathie pour le public de Roland-Garros, parce que voilà, on a l'impression qu'il attend depuis des années. Bon, il y a quand même eu des... Tsonga a été en demi-finale, mon fils en 2008 a été dans une demi-finale contre Roger Federer, qui n'était pas loin de la gagner. Bon, vous me direz, il aurait affronté Nadal en finale, je ne sais pas, enfin, j'imagine que ça aurait été compliqué pour lui, mais enfin bon, Gaël, mon fils en finale de Roland-Garros, c'est quand même pas la même chose.
Et donc voilà. Tsonga contre Djokovic également.
Oui. Exact. Non, il y a eu, je vous parle de... Voilà, je vous parle de 2008, n'est-ce pas? Donc c'est quand même pas récent. Donc voilà, que dire? La réponse est malheureusement dans la question. Je crois que vous sentez au ton de ma voix que rien ne me ferait plus plaisir que cela. Mais il va falloir attendre, au moins encore attendre un an.
Encore une dernière question, hein. Je suis désolé mon cher Nelson, on prolonge le plaisir, je vous avais dit 15 minutes. La Coupe du Monde actuelle, Nelson Montfort, on vient de conclure la première semaine de compétition. Est-ce que vous avez un œil attentif sur ce qui se passe en ce moment? Est-ce que vous avez un amour de l'équipe de France? Comment Nelson Montfort vit cette compétition?
Alors, je vais, et je pense que ça sera le cas d'énormément de spectateurs, téléspectateurs et autres, vraiment commencer à m'intéresser à cette Coupe du Monde à partir des 16e de finale. Pourquoi? Parce qu'à partir des 16e de finale, ce sont des matchs par élimination directe. Aujourd'hui, Guillaume, il y a 48 équipes dans des groupes dans 12, alors que je ne dis pas de bêtises, oui, ça, dans 12 groupes de 4, où on prend les deux meilleurs, plus les 8 meilleurs troisièmes. Ce qui veut donc dire que le match France-Sénégal, qui a été en tout cas la deuxième mi-temps magnifique, était quasiment un match amical, parce que on peut penser que le Sénégal se qualifiera de même que l'équipe de France, et que, vous savez, c'est pas parce que vous terminez troisième du groupe, parce qu'après c'est élimination directe sur un seul match, même si vous tombez contre, je ne sais pas, pour pas prendre l'équipe de France, contre, je sais pas, l'équipe des Pays-Bas, du Brésil ou de l'Angleterre, je vous parle de grandes équipes, vous pouvez gagner. Vous pouvez Bien gagner. Sûr. Donc à partir de là, je pense que cette Coupe du Monde commence vraiment. Autrefois, on disait en huitième de finale, mais c'est parce qu'il y avait moins d'équipes. Là, elle va commencer en 16e de finale, je crois, donc à partir du lundi 29 juin, si mes choses jouent, je crois que c'est ça. Mais voilà, évidemment, parce que vous pensez bien qu'il y a une raison, hein, ça, la raison, c'est évidemment l'argent. De même que les pauses fraîcheurs, c'est évidemment pour des pubs à la télévision américaine. Les Américains, qui sont une catastrophe
pour le jeu et pour le football, à mon avis. Hein. 23e minute et 67e minute, c'est pauses fraîcheurs à chaque fois. Lorsqu'une équipe prend le dessus et a vraiment la capacité de finir un peu son adversaire grâce à un but, eh bien, il y a une pause fraîcheur qui vient.
Ce qui fait l'ADN du foot.
Eh bien, il y a une pause fraîcheur qui arrive en plein milieu et qui coupe, pardon, absolument toute velléité.
Je partage 100% votre avis. Alors la seule chose, c'est que les téléspectateurs américains, du moins ceux qui suivent le mondial, parce que le soccer en Amérique est beaucoup moins suivi que chez nous, bien sûr, eux ne seront pas trop dépaysés, parce que c'est ce qui arrive tout le temps dans le football américain, dans le basket, où il y a des interruptions publicitaires sans arrêt. Mais c'est vrai que pour nous, je trouve ça extrêmement dommageable, d'autant qu'on sait très bien que ce n'est pas par intérêt sportif. Vous savez, bon, le soir à 21h, à 22h, il peut faire 18 ou 20 degrés. La pause fraîcheur ne s'impose absolument pas. Donc, on connaît les raisons pour lesquelles il y a ça. Et ça, je le regrette vivement. Ça coupe le rythme. Et Et voilà, y a trop d'équipes dans ce mondial de football. Écoutez, quand même, que des équipes comme le Curaçao, Haïti, contre lesquelles je n'ai rien, y soient, et que l'Italie n'y soit pas, il y a quand même quelque chose qui cloche. Vous êtes, je pense, d'accord avec moi.
Absolument, on est totalement
voilà,
d'accord.
Donc,
alors, Curaçao, voilà. Nelson Montfort, Curaçao, et d'ailleurs mes chroniqueurs autour de moi, petite bourgade, est-ce que vous savez combien d'habitants?
Non, mais en plus, moi, je trouve bien qu'ils y soient. C'est pas ça, mais je trouve que je sais pas, il y a quelque chose qui,
oui, mais vous avez,
y a quelque chose qui cloche.
Vous avez quelque chose
qui cloche. Je dirais 150 000.
Ah, pff, voilà, 150 000, c'est 150 000, Alexander Nikolic.
Bravo.
Curaçao,
c'est
150 000 habitants.
Culture géopolitique.
Et Alec, hein. Alec et Jérémy et Monsieur Montfort, 150 000 habitants.
Il est trop fort.
Oui,
il est trop fort.
Il est brillant. Il est très ponctuel aussi. Et 150 000, c'est d'ailleurs la ville d'Aix-en-Provence. Imaginez, Aix-en-Provence. À cette Coupe du Monde, les amis. Il y a un problème, il y a quand même un vrai problème.
Mais en fait, là, Nelson l'abordait, en fait, que l'Italie, et puis désolé du fait de mes origines, mais que la Serbie non plus n'y soit pas. Mais c'est une anomalie, et je pense que ils ont augmenté le nombre de pays là, en donnant une surreprésentation au continent nord-américain, parce qu'il y avait les trois qualifiés directs, le Mexique, le Canada, les États-Unis, et on est dans quelque chose d'assez absurde, parce que vous avez des pays comme Curaçao, par exemple, qui sont qualifiés et qui n'ont nettement pas le niveau. Enfin, face à l'Allemagne, c'était... Enfin, oui, c'était un peu gênant.
C'était ridicule.
Voilà, et on voit aujourd'hui, au regard de ce premier tour, des premiers matchs de poule, comme le disait Nelson, qui serviront pas à grand-chose d'ailleurs, on voit quand même que les pays européens, les pays africains aussi, s'imposent régulièrement, et donc on doit s'adapter et donner plus de représentation, je pense, à ces deux continents.
Voilà, mon cher Nelson, je pense qu'on est arrivé au terme de cette interview. On a un peu fait durer le plaisir d'ailleurs. C'est pour ça que je vous remercie bien sincèrement. Merci beaucoup, Nelson Montfort, d'avoir été l'invité extraordinaire, exceptionnel de Coup d'envoi. C'était un plaisir. Hein.
Un grand merci.
Plaisir partager mes amitiés à vous tous et bonne fin de journée.
Et peut-être pourrions-nous envisager le retour du duo avec Philippe Candeloro sur ce plateau un de ces jours. La boucle serait bouclée, Nelson.
Oui, d'autant que, dernière chose, si vous me permettez, nous allons jouer au festival d'Avignon, ce qui n'est quand même pas rien. Donc on va jouer notre pièce. Oui, on va jouer notre pièce au festival d'Avignon. Donc oui, ça c'est une pièce
sur
grand
quoi
bonheur. Vous savez, les gens aujourd'hui ont besoin de rire. Je pense que vous serez d'accord avec moi.
Oui.
Et cette pièce de théâtre leur en offre l'occasion.
Vous pouvez en faire la publicité. C'est une pièce sur quoi
On a déjà parlé avant que t'arrives.
On a déjà fait Nicolas.
Ah oui, notre ami est arrivé à force.
Désolé, j'étais
oui,
sur une autre émission.
C'est le problème.
Avant,
voilà. Merci.
Vos amis vous expliqueront.
Absolument.
Voilà.
Merci. Pardon.
Et il ira la voir d'ailleurs.
Voilà.
Il ira la voir.
À Avignon.
Je vais aller à Avignon exprès.
À Avignon.
Merci.
En Avignon.
Merci beaucoup Nelson Montfort d'avoir été notre invité. C'était un véritable plaisir. Je vous laisse écouter. Quitter. Merci beaucoup Nelson.
Bonne soirée à vous tous.
Bonne soirée, au revoir. Bon, messieurs, ça c'est du lourd quand même. Hein. On a eu Nelson Montfort aujourd'hui, les gars. Là, on peut être absolument content. Coup d'envoi ne cesse de prendre de la hauteur. Notre deuxième sujet, enfin plutôt notre premier sujet de fond, messieurs, intéressons-nous, si vous voulez bien, au propos du président de l'Assemblée nationale au Sénégal. Alors normalement, j'ai l'insert. Peut-être qu'on peut le jouer dès maintenant. Je l'ai tout à fait. Je vous propose de l'écouter. On en discute juste après.
Question d'actualité. En 2002, le Sénégal battait la France en match d'ouverture de la Coupe du Monde. La France était tenante du titre à l'époque. Les deux nations vont se rencontrer à nouveau pour leur premier match de Coupe du Monde. Je vais évidemment vous demander votre pronostic pour ce match.
Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Et dans tous les cas, ce n'est qu'un match de football. Mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique.
Voilà, bon, ça se passe de commentaires, messieurs, on va en discuter tous ensemble. On a été extrêmement surpris, je ne sais pas qui connaissait monsieur Ousmane Sonko, un président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Alexander Nikolic, c'est l'Afrique qui va battre l'Afrique dans tous les cas. Quelle a été ta réaction lorsque tu as entendu ça?
Bon, assez surpris, tout le monde s'est envoyé cet extrait. C'est marrant de voir que le gouvernement sénégalais, par son intermédiaire, parce qu'il est quand même président de l'Assemblée, il a été premier ministre, On peut se dire quand même que ce gouvernement va vraiment dans vers des trajectoires politiques étonnantes. Enfin, ils mettent en place des lois homophobes. Là, ils ont une vraie vision racialiste avec une vision de l'identité purement génétique en considérant que ce qui détermine l'identité des joueurs français, c'est leur origine génétique. Non, évidemment que c'est la France qui a battu un pays africain. On peut être fier de nos joueurs français. Je lui enverrai un petit tacle en disant quand même qu'on peut constater qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs africains, de joueurs des équipes nationales africaines qui sont nés en Afrique. Et qui souvent ils sont, même ceux qui sont nés en Afrique viennent se faire former dans les pays occidentaux et européens, et notamment la France. Donc plutôt que d'essayer de récupérer nos joueurs qui sont réellement français, ils devraient peut-être se dire qu'en tant que responsables politiques, ils devraient mettre en place des mesures et des infrastructures pour enfin former des joueurs chez eux, parce qu'il y a des grands manques.
Jérémy, ta réaction ?
En ce qui me concerne, j'étais entièrement d'accord avec ce monsieur. D'ailleurs, je pense comme des millions de Français et des millions d'Africains, puisqu'il a dressé un constat. Et d'ailleurs, je suis assez surpris de voir beaucoup de réactions. On a l'impression que il y a une connotation négative et péjorative dans le fait d'être désigné comme un Africain. Voilà. Il n'a pas dit qu'il mettait un signe plus ou moins. Il a dressé ce constat, à savoir que, j'aurais aimé qu'on écoute la phrase entière, puisqu'il est au début sur le terrain du football. Après, il dit, pour donner une lecture positive, politique, j'ai l'impression que c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique, puisque ça doit nous interpeller la surreprésentation de joueurs issus d'origine africaine au sein de l'équipe française, doit nous interpeller sur le fait de où est réellement le besoin. Est-ce que c'est aujourd'hui la France qui a besoin de cette diaspora franco-africaine? Ou est-ce que c'est l'Afrique qui en a le plus besoin? Et moi, je vais sur ce terrain politique. Le match ne m'intéresse pas vraiment. On est en train de donner une grille de lecture politique de cette analyse. Pour moi, effectivement, je fais tout comme lui le constat qu'il y a aujourd'hui, appelons ça une diaspora africaine en France, qui visiblement n'a pas trouvé toute sa place en France. Et elle le déplore relativement souvent en faisant état de l'impossibilité de grimper socialement en France. On nous parle parfois de racisme systémique. Et si je rejoins les propos de ce monsieur Sonko, effectivement, lui, il est plutôt dans un appel en disant c'est peut-être aujourd'hui l'Afrique qui a besoin de cette main-d'œuvre, qui a besoin de cette matière grise, qui a besoin de cette force vitale, de cette jeunesse, de cette énergie, pour relever ces défis, parce que l'Afrique est tout comme nous confrontée aujourd'hui à des déficits de natalité. Il y a des défis, des enjeux économiques.
Trop de natalité.
Oui et non. Dans certaines zones, oui. Mais au Maghreb, le Maghreb et l'Afrique francophone est également confronté. Le Nigeria, c'est de la surnatalité. Mais l'Afrique francophone et le Maghreb, tout comme nous, à terme, va avoir un problème. Pas demain, pas après-demain, pas dans 6 mois. Mais si tu traces une courbe dans les 20 prochaines années, certains pays d'Afrique vont avoir, tout comme nous, des problèmes de natalité. Ce que dit ce monsieur, en fin de compte, voilà. Qui a besoin de l'autre? Est-ce que c'est la France qui a besoin de l'Afrique ou l'Afrique qui a besoin de la France? Voilà, après chacun met le curseur là où il veut.
C'est évident, non?
Mais je n'ai pas vu en tout cas de propos racistes.
Tu te poses vraiment la question ou pas?
Ah, réellement?
Non, mais c'est-à-dire que...
Mais en toute neutralité, en toute objectivité...
Est-ce que la France a besoin du Sénégal? C'est ce que tu veux dire?
Non, c'est ce que je suis en train de dire. C'est qu'aujourd'hui, qui a besoin de cette main-d'œuvre et qui a le plus besoin de cette diaspora? Est-ce que c'est aujourd'hui la France, sachant que ce qu'on a de mieux parfois à leur offrir, c'est des boulots à McDo ou des boulots de vigile ou des boulots... Parce que la plupart d'entre eux ont des vies de merde. Parce qu'il faut tordre le cou à un mythe à droite, selon lequel la diaspora africaine branle rien, fait des gosses et touche les aides sociales. Pour en avoir côtoyé beaucoup dans mes activités dans le football, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de familles qui galéraient, des familles qui avaient très bien élevé leurs gamins, des gamins qui étaient diplômés, mais qui ne trouvaient pas leur place dans la société française.
C'était pour pas plein le sujet de raisons. Initial, mais pour plein Jérémy, si je peux juste apporter
je finis ma phrase et je te passe le relais. Et je fais le constat, encore une fois, en ayant été au contact de ces familles et de voir que la plupart d'entre elles galéraient et n'avaient pas trouvé leur place, et qu'à la 4e génération, on appelait encore le petit-fils Aboubacar, ce qui était un message subliminal très fort. Et encore une fois, je n'émets pas de jugement de valeur, parce qu'ils ont le droit. Moi, si je vais habiter au Japon, j'appellerai mes enfants, je ne les appellerai pas avec des prénoms japonais. Donc aujourd'hui, moi, je fais le constat, tout comme lui, qu'il y a une diaspora en France qui est restée africaine, qui a une citoyenneté française, une carte d'identité française et un passeport français, mais qui est restée dans son âme et dans son cœur africaine, et que c'est l'Afrique aujourd'hui qui en a besoin, et c'est pas McDonald's, et c'est pas le Décathlon pour avoir deux vigiles devant. Et lui, précisément, c'est le sens de ses propos.
Alexandre.
Donc déjà, sur ce que tu as dit, premièrement, c'est faux. Évidemment, tu as beaucoup de personnes qui arrivent et qui travaillent, c'est vrai, des personnes qui viennent d'Afrique. Mais si tu fais le, si tu regardes les chiffres, aujourd'hui sur l'immigration africaine, les Africains touchent trois fois plus d'aide sociale en France dans leurs revenus. En fait, les aides sociales représentent trois fois plus importante que les Français.
C'est qui les Africains?
Mais globalement, ceux qui ont une nationalité d'un pays africain et qui sont présents sur le territoire français, les immigrés africains, voilà. Donc, touchent trois fois plus d'aide sociale. Et il se trouve également qu'ils paient deux fois moins d'impôts. Donc en fait, quand ils travaillent, par exemple, ils paient moins d'impôts. Et ils ont aussi... ils travaillent moins, c'est-à-dire qu'ils sont il n'y a que 54% des personnes africaines qui sont sur le territoire français en âge de travailler qui sont en emploi, en activité.
On dit donc la même chose.
Non, parce qu'ils sont justement
je dis qu'ils n'ont pas leur place. Tu dis la même chose. Tu dis qu'ils n'ont pas leur place ici
et qu'ils montrent bien qu'il y a un problème.
Tu sous-entends qu'ils seraient mieux là-bas. Tu dis donc que moi qui serais mieux là-bas.
Non, mais évidemment que je considère qu'on ne doit plus, on n'a pas la capacité d'accueillir toute cette population, les loger dans des logements sociaux à majorité.
Bien sûr.
Et ensuite leur donner beaucoup plus d'aide sociale. Parce qu'aujourd'hui, on a un système social qui est en grande partie adapté justement à cette immigration, et notamment africaine. Après, ce qu'il dit, c'est philosophique et politique. Mmh. C'est-à-dire que. Effectivement, même quand vous aviez Césaire qui parlait de négritude...
Concentre-toi un peu, Alec, tu sors du cadre, là, regarde.
Il a une vision... Excusez-moi, j'ai pas regardé...
Pas politiquement, juste dans le fauteuil.
Comme toi avec l'Algérie, il y a trois semaines.
Il a une vision de l'identité qui est sa couleur de peau. Enfin, personne n'avait écrit la blanchitude. Ou alors, ce sont des racistes racialistes. Ouais. Et on a cette vision qui lui exprime, qui est une vision racialiste. C'est-à-dire qu'il considère que parce qu'ils sont noirs, par exemple, ils seraient africains.
Mais ils sont africains, Alexandre. Et ce n'est pas péjoratif.
Mais non, ils ne sont pas africains.
Ils sont africains.
Mais ça, c'est une vision
génétique. Ils te le disent à longueur de journée. Ils s'appellent Boubacar.
Et c'est un problème.
On était d'accord sur Dembélé. Dembélé, dès qu'il gagne un centime de prime FFF, il fait construire quelque chose au Mali.
Jérémy, c'est un problème, justement, qu'il y a ce ressenti. Et d'ailleurs, c'est étonnant. Notre travail de responsable politique, notamment, c'est de dire qu'ils sont français puisqu'ils ont la nationalité française et qu'ils doivent se comporter en français, qu'ils doivent s'assimiler à la France. Et on a ce représentant, donc Monsieur Sonko, donc député, enfin président de l'Assemblée nationale, qui est, je rappelle, soutenu par LFI. Donc on a ce gouvernement qui a une vision totalement racialiste voire raciste de la société.
Pour moi, il l'a pas dit comme ça.
Et homophobe. Tristement ironique de voir que ces gens soutenus par LFI, ça en dit long. D'ailleurs, il y a des déclarations d'élus LFI qui vont dans ce sens-là en disant que les élus, Coquerel avait dit dans le 93 que dans le 93 doivent avoir la même couleur de peau que les habitants. Ça veut dire quoi?
La nouvelle France, hein. C'est la nouvelle France.
Non, mais
France
ça veut
LFI,
dire quoi? Donc en fait, moi, excuse-moi, je suis dans cet héritage qui est difficile à tenir encore aujourd'hui, mais oui, historiquement républicain et assimilationniste, qui veut qu'ils s'assimilent et que ceux qui ne s'assimilent pas, effectivement.
Toi, tu veux qu'ils s'assimilent, et on pourrait épiloguer en disant mais qui s'assimile à quoi? Mais c'est même pas l'objet.
Ah bah ça, c'est une question super importante.
Quand on est au mois de janvier à la CAN et quand ils sont qualifiés en demi-finale et en finale, quand ils vont défiler à 23h sur les Champs-Élysées avec les drapeaux du Mali et du Congo, ils te disent qu'ils sont africains, Alexandre. Ce que je veux te dire, c'est que soyons d'accord sur le fait qu'eux-mêmes se revendiquent africains. Et donc, quand ce monsieur dit qu'ils sont africains.
Ce qui n'est pas nécessairement l'avis des joueurs de l'équipe de France de football.
Moi, j'ai une raison.
Une partie se revendique africain, une partie qui est largement majoritaire.
Moi, pour moi, si tu leur poses la question, les yeux dans les yeux, si tu les prends un par un, à part Hernandez et Rabiot, et tu leur dis « Est-ce que tu es africain ?» Ils vont dire « Oui, Alexandre, je suis africain et je suis aussi français. »
Tous les autres pour toi vont dire ça.
Ah, moi, la plupart du groupe, on peut les prendre un par un.
Barcola va dire ça.
La plupart des... Pas Barcola.
Doué non plus.
Voilà. Je sais pas.
Mike Maignan non plus.
Désiré Doué, je sais pas. Mais commençons par l'autre côté.
Mais africain, avant d'être français, c'est ce que tu veux dire?
Africain, voilà. Après, on peut dire, et c'est pas ce que lui dit, encore une fois, il a pas dit, ce sont pas des Français, ce sont des Africains, ce sont restés des Africains. Moi, je dis qu'ils se sont restés philosophiquement des Africains et qu'il n'y a même pas de problème à le dire. C'est-à-dire que pour moi, je veux juste me mettre en contradiction par rapport à ton intervention du début, à savoir que c'est du racisme. Je ne vois pas de racisme, Alexander. C'est... Parce qu'être un Africain, être un Asiatique, être un Allemand, être un Austro-Hongrois, c'est un qualificatif. C'est pas... Il n'a pas dit c'est un sale Africain ou c'est un séropositif. Ou c'est... Il a dit ce sont des Africains. Bah, c'est Africain. C'est pas une maladie d'être Africain.
C'est philosophique de, la, de l'identité. C'est-à-dire que ton identité reste figée génétiquement. C'est une vision anglo-saxonne, africaine, tout ce que tu veux, qui n'est pas une vision française. Donc d'ailleurs, on pourrait peut-être se dire, il a une vision africaine classique, qui est sur l'identité génétique, même ethnique, dans les divisions entre peuples en Afrique, ce qui crée très souvent de fortes tensions, entre, par exemple même dans ce type de territoire, entre les Peuls ou d'autres groupes. Et nous, on a une vision qui est différente, qui est sur la pensée. Et c'est
et le nombre fait également partie de l'équation parce que sur la pensée si tu fais venir 15 millions de Maliens qui sont tous très bien éduqués, très gentils, qui respectent le code de la route et qui payent leurs impôts, ça fera 15 millions de Maliens en France et à un moment il y aura un problème quelque part.
C'est aussi le cas.
Mais je suis d'accord avec toi. Mais je suis d'accord avec
si
toi.
Si tu réfléchis
mais,
pas.
Mais c'est plus en douceur et voilà. Mais si effectivement, ce sont 15 millions de Portugais qui viennent habiter en France au même moment, à l'instant T, et qui continuent de parler portugais,
ils sont plus semblables.
Et voilà. Mais il faut faire attention quand on parle de valeurs parce que justement, c'est là qu'on met des plus et des moins. Moi, j'ai envie de rester là-dedans. À savoir, moi, je mets égal. Il n'y a pas de hiérarchie. Il y a pas de hiérarchie des races, mais il y a des races. Et il y a des ethnies, et il y a des...
Alors ça, c'est pour moi, non.
Voilà, mais il n'y a pas de hiérarchie.
Il y a des cultures, il y a...
Les gars, on est beaucoup trop en retard, là.
Ah,
okay. Là, il est déjà 18h17, et en théorie, on doit couper à 18h30, les amis. Ah, donc, on est au tout début de l'émission. Je vous propose, juste avant d'aller sur l'analyse sportive de cette Coupe du Monde, Alexander, tu avais un coup de gueule, hein, on en a énormément parlé, nous, notamment hier, dans Frontières la matinale. Je remercie Idriss Gali, qui a d'ailleurs été excellent à l'encontre de Bali Bakayoko, hein, qui considère... légitime de siffler la Marseillaise, il considère que c'est un acte populaire, Alexander Nikolic.
Oui, c'est, et il dit surtout, c'est légitime parce qu'il y a une... je tiens mal le micro.
Non, c'est bon, là, tu es assez proche.
Bon ok. Non, et il dit que c'est légitime parce que il y a des parce qu'ils sont d'ici et d'ailleurs et donc et la France a en gros des choses à se reprocher d'un point de vue international. En gros, il fait référence à la colonisation, voilà. Et il le dit pas de manière explicite, mais c'est ce qu'il sous-entend. Et d'ailleurs, Aurélie Trouvé de LFI qui a justifié ses propos sur un autre média, je crois BFM TV. A dit
c'était
que,
dans les grandes gueules d'RMC.
Dans les grandes gueules sur RMC, BF, a dit que oui, elle a parlé de l'Algérie, notamment du passif par rapport à la France. Ou autre. Alors déjà, je comprends pas. Parce que si tu es français, tu dois, et là c'est toute la vision française, c'est tu dois te ressentir justement un français à part entière et donc prendre l'histoire de France. C'est toute la réflexion. Sinon, tu es sur une base génétique. Mais c'est ce qui a fait l'identité de la France. Et donc que des élus, soi-disant de gauche comme ça, affirment cette vision-là en disant qu'ils sont aussi donc d'un ailleurs génétique, c'est une vision qui est anti-républicaine. Mais après, c'est surtout faux parce que ça veut rien dire, je veux dire. Enfin, cette espèce d'excuse de ressentiment est totalement infondée. Il y a les mêmes difficultés dans des pays où il n'y a jamais eu de colonisation. En Suède, on a vu les supporters argentins se faire agresser par des Algériens récemment avant le match. Et ça n'a aucun sens. Je veux dire, les Arabes sont arrivés en Algérie il y a plus de 1200 ans, enfin 1100 ans à peu près, et ont colonisé ce territoire. Ils ne sont pas en train de s'excuser, comme sur tous les territoires qu'ils ont conquis. Ensuite, ils ont conquis l'Espagne, le Portugal. Ils ne s'excusent pas pour ça. Ils ne s'excusent pas ensuite, les Algériens, pour les barbaresques, par exemple, qui ont capturé un million d'esclaves, et pour chaque esclave, il y avait 3 victimes. Donc, c'est 3 millions de victimes. Et nous, on devrait systématiquement s'excuser, alors que c'est l'histoire de l'humanité, alors que, je le dis, l'occupation qu'on a eue, qui s'est appelée colonisation, se faisait d'ailleurs dans un respect, parce qu'il y avait cette vision de faire en sorte on avait financé beaucoup de choses, et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs, et ils ont d'ailleurs du mal à se remettre de nos départs, hein, j'ai déjà dit, mais en Algérie, quand on part en 62, l'Algérie a un PIB supérieur à la Corée du Sud, on voit où ils sont aujourd'hui, donc la responsabilité, elle est évidemment pas française. Et donc, on a des élus qui cultivent justement cette repentance. Et moi, vous savez, je suis d'origine serbe et portugaise. Mon père était serbe, ma mère est portugaise. Les armées napoléoniennes, je crois que c'est en 1807, arrivent et occupent le Portugal. En tout, ça a duré à peu près 4 ans. Il y a eu des allers-retours parce que les Anglais venaient aider les Portugais. Il y a eu des pillages terribles et des morts terribles. Et il n'y a aucun Portugais qui est là à reprocher cette occupation. Comme je disais, je suis d'origine serbe. Les Serbes ne sont pas en permanence dans une revanche contre l'Ottoman. Alors qu'il y a eu 500 ans d'occupation, près de 500 ans d'occupation ottomane. Tout ça, ce sont des excuses pour cultiver une culture de l'anti-France. Parce qu'ils sont aux antipodes en réalité de ce qu'on incarne et de ce qu'on représente en termes de référence de valeur. Et c'est beaucoup plus profond. Et c'est pour ça qu'il y a ces mêmes difficultés sans colonisation et sans passé commun dans d'autres pays européens. Et vous avez ce conflit de référence de valeur qu'on n'arrive pas à gérer en Europe. Et on a ces élus LFI qui essaient de trouver des excuses sur un racisme systémique complètement inventé, parce que moi je le dis, non, il n'y a pas d'arrestation arbitraire ou je ne sais quoi, et un racisme organisé en France. Au contraire, il y a même parfois une forme de paternalisme et certains avantages quand on est issu de l'immigration.
Merci beaucoup, mon cher Alexander. C'était très important, évidemment, de revenir dessus. Encore une fois, la nouvelle France d'LFI use voilà, une rhétorique de plus en plus radicale, de plus en plus importante, notamment vers la prochaine élection présidentielle. Et d'ailleurs, tant dans les mots que sur le terrain. Hein. Moi, je suis allé à Saint-Denis il y a 10 jours, hein, pour le meeting de Jean-Luc Mélenchon. Et ben voilà, j'ai pas eu le droit de rentrer dans le meeting. Je me suis fait insulter, je me suis fait lancer de l'eau dessus. On a été menacé, évidemment. Voilà la réalité d'un journaliste de droite en 2026 lorsqu'il essaye de couvrir un événement de la France insoumise. Messieurs, si vous le voulez bien, place à l'analyse sportive, beaucoup de choses à dire. Et évidemment, la Coupe du Monde, déjà, ce premier match de l'équipe de France face au Sénégal, victoire 3-1, une première période franchement loupée de la part de nos Bleus, une deuxième période avec un petit peu de remaniement technico-tactique, je pense notamment à Michael Olysee qui a été replacé dans l'axe, là où Ousmane Dembélé est remonté à droite. Bon, que pense-t-on de ce match, Jérémy, la deuxième période a été quand même intéressante pour les Bleus.
Alors je ne l'ai pas vu, mais j'ai lu un peu tout ce qui s'était...
T'as pas vu le match ?
Non. Bah, je ne suis pas encore vraiment rentré dans cette Coupe du Monde. Je rejoins... Alors, moi, je déplore pas le fait que beaucoup d'équipes soient présentes, parce que c'est une Coupe du Monde, c'est un peu un festival, voilà, c'est un peu l'Eurovision du football. Chacun vient chanter sa petite chanson, ça permet de ronronner un petit peu, de rentrer doucement dans la compétition, de faire des tests, des adaptations. Comme Nelson Monfort, je basculerai dans la compète sans doute à partir des 16e de finale. Donc j'ai eu d'autres trucs à faire jusqu'à maintenant. J'ai lu, en revanche, évidemment, comme j'ai l'équipe tous les jours, tous les comptes rendus. Donc je sais qui était bon, pas bon. Et je suis quand même donc plutôt sur une image assez positive, puisque je crois que l'équipe de France a l'habitude de plutôt mal rentrer dans ces compétitions, qu'a priori, les joueurs ont été plutôt bien notés, notamment Mbappé. Donc voilà, il y a eu un Mbappé bashing avant la Coupe du Monde, et je suis content de voir.
C'est une première période absolument cataclysmique. Hein, voilà, ridicule, il rate tout.
Ouais, mais moi, j'ai du mal à ne pas avoir de sympathie pour ce garçon. Je ne parle bien évidemment que de football et que de sport. Je me moque de ses opinions politiques et de ses postures de Martin Luther King. Mais le footballeur, voilà, c'est quand même un garçon, un génie du foot, qui nous a fait gagner une Coupe du Monde. Il n'était pas le seul, mais il a sa part dans la victoire en 2018. Il a été exceptionnel en finale contre l'Argentine en 2022. Donc, j'ai du mal à ne pas apprécier le footballeur Mbappé.
Il n'est plus qu'à deux unités désormais du record de Miroslav Klose
en plus.
Monde, donc les 16
et il a battu Giroud.
Et voilà. 58 réalisations.
Il y a quand même plusieurs symboles. C'est un grand joueur de foot.
Mais il a mis plus de pénalty que Giroud.
Aussi.
Oui, mais en moins de cap. Hein. Je crois qu'il a une moyenne de 0,60 buts par match. C'est absolument délirant. Ce premier match de l'équipe de France, Alexander.
Une première mi-temps quand même assez difficile parce qu'on a fait, je pense, jeu égal. Et je trouvais d'ailleurs l'arbitrage plutôt en notre faveur sur certaines décisions.
Sauf le pénalty.
Non, mais en première mi-temps.
Ouais, t'as raison.
Et après, il y a ce fait en seconde mi-temps où je ne comprends pas comment il peut ne pas y avoir de pénalty d'ailleurs, enfin, honnêtement. Mais j'ai l'impression que ça change un peu le match, quoi. Enfin, parce qu'après, le Sénégal existe quasi plus. Je disais qu'on a eu du mal en première mi-temps. Je trouvais que Jules Koundé était catastrophique.
Je suis d'accord avec toi. Il a vraiment
et
pas
Hernandez
été
Hernandez à gauche, il paraît.
Comment ?
Et Hernandez à gauche,
il y a eu plus de déchets techniques chez Koundé.
Ouais, Koundé c'était pire. Honnêtement, plusieurs pertes de balles et tout. Mbappé était un peu à contre-temps en première mi-temps.
Il a tout loupé, hein.
Et ouais, je trouve que vraiment, ça allait pas. Olysee était n'était pas encore vraiment rentré dans sa Coupe du Monde. Il n'était pas mauvais, Olise. Meilleur que Koundé et Mbappé.
Mais la première période, il y a un vrai problème d'animation. Les joueurs se marchent dessus. Il n'y a personne dans l'axe. Et Ousmane Dembélé et Olise se marchaient dessus.
Et là, c'est vrai que la deuxième mi-temps, elle est quand même excellente. Et il y a Mbappé qui est transformé. Olise
est recentré dans l'axe.
Et quand il touche beaucoup de ballons, on dirait qu'il se met un peu plus dans le match. Il avait besoin d'être rassuré. Peut-être qu'il était stressé pour sa première Coupe du Monde. Et on a eu une grosse équipe en seconde mi-temps. Derrière, Upamecano est énorme du début jusqu'à la fin.
Saliba aussi fait un très bon match.
Saliba, plus sur la relance. Voilà,
on a la meilleure charnière du monde.
La charnière est énorme et un milieu de terrain qu'on jugeait faible. Hein. J'ai trouvé Tchouaméni et Rabiot excellents. D'ailleurs,
surtout Rabiot. Hein. Rabiot, pour moi, c'est l'homme du match avec Olise. Ouais.
En fait, un Tchouaméni très récupérateur et un Rabiot avec Olise qui sont
la régista, vraiment le poste juste devant la défense. Pour moi, Rabiot, il est homme du match avec Olise.
Et Maignan, pas bon, il paraît. Fébrile, pas serein.
Rabiot, tout le match est bon.
Je suis d'accord.
Contrairement à.
Mais c'est Rabiot qui perd le ballon sur le but du Sénégal.
Ouais, c'est vrai. Mais après, le match est en réalité déjà plié. Enfin,
mais pour moi, Rabiot est homme du match.
Ouais. Enfin, après, Mbappé met deux buts quand même et un but magnifique.
Oui, mais au vu de sa première période, je peux pas lui donner le titre d'homme du match. Ouais. Voilà. Et il en loupe deux énormes aussi sur des caviars de Olise aussi. Hein.
Oui, c'est clair. Et des appels de balles un peu à contre-temps quand le ballon. Enfin, je sais pas ce qu'il fait à un moment. Vous savez, tout au début du match, quand ça touche son talon. Enfin, un bon Mbappé, ça doit finir en face à face face au gardien.
Le fait est que c'est aussi dans ce genre de match qu'on attend les grands joueurs. Messieurs, est-ce que.
Juste vite fait, un bémol quand même, parce que moi je trouve que cette équipe du Sénégal, qui était bonne, qui avait impressionné pendant la CAN. Je trouve que c'était pas une mauvaise équipe, surtout en première mi-temps.
Moi, j'ai trouvé solide quand même.
Il y a un joueur, Koulibaly. Merde, je sais qu'il revenait de plusieurs mois de.
Il est rincé.
Oh, mais c'était. Il a une vraie responsabilité sur. En fait, les autres devaient couvrir systématiquement et je pense que ça a pesé en seconde mi-temps. Il jouait à 10 vraiment.
On dirait Thiago Silva à la fin du PSG.
C'était chaud.
Il est rincé. Est-ce que vous avez vu une équipe qui vous a énormément plu dans cette premier match de poule, messieurs? L'Espagne a fait 0-0 contre le Cap-Vert. Là où on espérait que, enfin, du moins on pouvait supposer. Moi, c'est toujours mon favori aujourd'hui, l'Espagne. Est-ce qu'il y a une équipe que vous avez trouvée au-dessus du lot dans ces premiers matchs?
Moi, j'ai trouvé que l'Angleterre, c'était très fort.
C'est ce qu'on m'a dit, il paraît que l'Angleterre est costaud.
J'ai trouvé un Harry Kane assez incroyable face à une équipe de Croatie qui m'a aussi impressionné. C'était assez costaud, la Croatie. Je trouvais l'Angleterre très fort.
L'Argentine, c'était fort aussi.
L'Argentine contre l'Algérie, bien sûr.
L'Argentine, c'est le même milieu de terrain qu'en 2022.
Ouais, l'Argentine, c'était fort. Après, ça ira pas au bout, mais la Norvège a été vraiment solide. J'ai les matchs que j'ai vus. L'Argentine, j'ai vu que le résumé, par exemple. Donc, je m'en sais pas. J'ai vu le match entier Angleterre-Croatie. J'ai vu l'Allemagne en entier contre Curaçao. Mais ce qu'on peut vraiment juger, mais c'était quand même une grosse équipe d'Allemagne. Après, encore une fois, c'était que Curaçao. Mais il faut toujours les gagner, ces matchs-là. Hein. Avec des joueurs, quand même, plusieurs joueurs pros qui jouaient en première division néerlandaise, anglaise. Ouais, c'était pas des joueurs amateurs à Curaçao. En fait, ils ont surtout pris des joueurs d'origine. De Curaçao. Après, j'ai pas vu l'Espagne contre le Cap-Vert, donc je sais pas ce qui s'est passé.
Ils doivent gagner 100 fois. Si le match est rejoué 10 fois, ils le gagnent. Ils le gagnent 100 fois.
Tranquille. J'ai trouvé par contre un Portugal. À un moment, le Portugal doit jouer sans Cristiano. C'est pas possible.
Tu disais que le Sénégal jouait à 10 avec Koulibaly, le Portugal jouait à 10 avec CR7.
Mais franchement, c'est.
Et puis ce qui est terrible, c'est qu'il est convaincu d'être aussi fort qu'il y a 10 ans.
Non, mais. Et puis en plus, Messi, il a adapté son jeu, je trouve. Enfin, d'ailleurs, il marque, mais. Mais il est plus en retrait et en fait, il met un triplé, mais c'est les situations de jeu qui font qu'il se retrouve dans ces positions-là. Cristiano Ronaldo, il veut jouer encore sur ses qualités physiques et tout, mais alors que non, c'est terminé en fait. Enfin, tu peux plus jouer comme ça. Enfin, c'est pas possible. C'est dingue qu'il se remette pas en cause à ce point-là. Il peut pas être avant-centre et jouer comme il le fait. Il prend même pas un ballon de la tête. Enfin,
je suis d'accord. Messieurs, il va falloir qu'on prenne une décision. Est-ce qu'on parle de Paul Sexas ou est-ce qu'on parle du top 14?
Non, parce qu'en plus, on n'est pas encore dans la séquence vélo. Donc,
je suis absolument d'accord. Le top 14, si vous le voulez bien. Messieurs, les deux affiches du top 14 à venir. Bon, qu'est-ce que. Match ce soir, d'ailleurs. Match ce soir du Racing.
Ouais, Toulouse Racing, mais ouais, et ensuite Montpellier Stade Français.
Ouais. Toulouse ultra favori contre le Racing ce soir, hein, forcément.
Moi non.
Mais ah oui, c'est vrai.
Je suis un mauvais pronostiqueur parce que j'avais dit la semaine dernière que La Rochelle irait gagner au Stade Français, que La Rochelle serait champion de France, et La Rochelle en a pris 50 au Stade Français. Mais j'ai été tellement impressionné par la victoire du Racing à la section paloise, sachant que Pau a fait une saison dantesque, et la façon dont le Racing a gagné à Pau la semaine dernière. Je trouve que l'équipe physiquement a un niveau incroyable. J'ai été impressionné par la défense. Évidemment, c'est le Stade Toulousain en face. Le bémol que je mets deux bémols. Le Stade Toulousain est un petit peu en roue libre depuis un mois et demi, déjà qualifié. J'ai l'impression que le Stade Toulousain va peut-être à un moment manquer de rythme, alors que le Racing a dû cravacher pour se qualifier. Et là, sur sa lancée, je pense que les mecs sont vraiment en forme. Et le deuxième bémol que je mets, et non des moindres, pour moi, la charnière qu'on idéalisait il y a encore 2 ans, la fameuse charnière Antoine Dupont-Romain Ntamack, je pense qu'il s'est passé quelque chose pour l'un comme pour l'autre. Et voilà, Antoine Dupont, je pense qu'il a un petit peu la tête au Festival de Cannes. Je ne vois plus le Antoine Dupont qu'on a adoré, adulé il y a 4 ans pour la Coupe du Monde. Et Romain Ntamack, pour le coup, je pense que lui a vraiment eu un sacré pépin au genou. Et je ne vois plus le Romain Ntamack de son début de carrière. Là, je pense que sa deuxième opération au genou, à mon avis, a transformé le joueur. Donc, je pense que la charnière toulousaine peut être mise en difficulté ce soir face au Racing. Tout le monde pourra se marrer demain si le Racing en a pris 40.
J'y crois pas du tout. Désolé, Jérémy, mais j'ai vu Pau Racing et j'ai vu Stade Français La Rochelle. C'est vrai que c'est une perf d'aller gagner à Pau. Mais Pau, c'est pas Toulouse. Le match, il aura lieu là, où là, au Stadium ?
Non, à Marseille, au Vélodrome ce soir.
Ah, c'est au Vélodrome.
Les deux matchs sont au Vélodrome.
Ah, pardon, ouais. Je savais pas. Excusez-moi pour mon inculture.
Non, arrête. Dis pas ça, Alexandre.
Ouais, honnêtement, non, j'y crois pas. Il y a un écart énorme de niveau. Quand Toulouse veut vraiment jouer, pour moi, ils sont imbattables. D'ailleurs, le quart qu'ils perdent en Coupe d'Europe contre Bordeaux, c'est vraiment des faits de jeu qui font tourner le match, des cartons jaunes et tout, mais pour moi, ils sont plus forts que Bordeaux. C'est la meilleure équipe au monde, le Stade Toulousain. Ils peuvent enchaîner avec d'autres joueurs à l'arrière, ils ont de la réserve, ils font tourner, ils mettent des gamins, c'est super fort. Enfin, honnêtement, voilà.
Ramos n'est pas là ce soir. Ramos n'est pas là ce soir.
Oui, mais pour moi, ils gagneront. Après, le débat, c'est aussi Montpellier-Stade Français. Stade Français, et moi je pestais, je me souviens du derby Stade Français Racing où il y avait deux titulaires, ils ont fait tourner, ils ont économisé les joueurs sur des mois, en fait il n'y a pas eu d'équipe type pendant 3 mois au Stade Français. Certains supporters du Stade Français, et j'en suis un d'ailleurs, râlaient un peu. Moi je râlais parce que quand j'allais voir des matchs avec mon fils et qu'il se mangeait une tôle.
Gaël, mon fils ?
Non, mais très bonne vanne.
Wow. Merci, excellent. Merci, c'est gentil.
J'étais sidéré qu'il ait osé faire cette blague.
Je n'en ramenais pas. Le Raymond DeVos de Frontières.
Merci.
Le craquage.
Je ne parle pas pour des questions physiques, évidemment. Guillaume,
j'espère, cher Alexandre Ardipolis. On espère que Raymond DeVos était ponctuel lorsqu'il avait des spectacles, lui, Alexandre Ardipolis.
Je ne suis pas responsable de ça. Voilà.
Non, c'est jamais de sa faute.
Jamais.
T'as vu Thomas Porte, LCP ?
J'ai vu Thomas Porte.
Thomas Porte à LCP que j'embrasse, hein, qui passe son temps à m'insulter de nazi lorsqu'il me voit à l'Assemblée nationale, évidemment. Thomas Porte, voilà encore une fois, hein, le camp de l'intolérance de l'FI. On en était où ?
Ouais, et qui s'est pas. Malheureusement, il m'a pas tendu de perche, il s'est pas mal comporté parce qu'on parlait des violences dans le sport, c'est quand même un sujet de frontière.
D'accord.
Des violences dans le foot et tout. Et
il a pas dit que t'étais nazi, toi.
Mais pas du tout.
Alors c'est marrant ça, parce que. Peut-être parce que t'es brun, il a pas dit que t'étais nazi, tu vois.
On avait reçu une consigne, on avait pas le droit d'interpeller les autres, mais c'était quand même fort de café parce que c'est un mec qui avait menacé l'Otio quand même en disant fais gaffe à toi, je sais pas quoi. Et qui avait mis la tête de Dussopt, vous savez, sur un ballon, désolé, je suis une digression. Ouais, Olivier Dussopt. Bref, j'ai pas pu lui dire parce qu'on m'a interdit, voilà, mais c'est vrai que c'est assez frustrant. Je disais le Stade Français, franchement, avec une équipe qui est économisée, c'est une équipe qui est forte, avec des joueurs qui sont transformés. Enfin, même le petit Carbonel qui voulait vendre, au final, personne n'en voulait. Il est excellent. Enfin, je veux dire, c'est une grosse équipe.
Mais c'est costaud en face aussi à Montpellier, parce que j'ai pas parlé de Montpellier. Je pense que pour le coup, il y a 50-50. Je suis incapable de dire.
C'est peut-être parce que je suis subjectif.
Non.
Mais moi, je dis finale Stade Français Toulouse avec victoire du Stade Français.
Allez, moi, je me mouille et je dis.
Il faut se mouiller là, les amis.
Je me mouille et je dis derby parisien en finale.
Derby parisien à la fin, alors.
Stade Français Racing, grosse cote.
Énorme.
Voilà. Stade rose et bleu ciel.
J'aimerais beaucoup. Voilà. Et j'aimerais vraiment une victoire du Stade français en finale.
Eh bien, écoutez, messieurs, peut-être qu'on discutera de ça la semaine prochaine. Et puis, il faudra qu'on parle également de Wimbledon la semaine prochaine. On conclut, comme d'habitude, chers amis, chers abonnés.
Sachant
chers
qu'il y a match nul.
Par le quiz,
bon, c'est là que je gagne.
Il y a 14 partout.
Évidemment. On est sûr qu'on a 14 partout.
Il n'y a jamais eu match nul. Tu as toujours été en avant, à part quand il y a eu 0-0.
Après, tu revenais.
Je suis toujours revenu. Mais c'est la première fois que j'ai égalisé.
Moi aussi, j'avais cette sensation qu'à chaque fois que tu revenais, il reprenait.
Mais là, on a égalisé l'autre jour.
On a été sûr de toi.
Ah, je suis sûr. Bon, donc, avec Marc Madiot. C'était Marc Madiot. Là. Ouais.
Donc, Aleksandar Nikolić, à chaque fois que tu égalises, il reprend le devant.
14 partout.
Il joue avec toi.
Allez, match. Joue.
Il joue avec toi.
C'est ma chose.
Allez. Allez, messieurs. Il est en forme, Aleksandar, aujourd'hui. Allez, Aleksandar, on commence.
Est-ce qu'il s'agit d'un homme?
Il s'agit absolument d'un homme.
Français?
Pas français.
Européen?
Non.
Américain?
Oui.
Sport collectif?
Non.
Sport olympique d'été?
Oui.
Athlète?
Non.
Sport US traditionnel? Tu vas dire que c'est une question de bien. Sport US?
Non, pas sport US.
Cyclisme?
Okay. Non.
On a dit Jeux olympiques d'été? Ouais. Oui. Athlétisme?
Non, j'ai dit athlète.
Nageur?
Non plus.
Hein? Et sport individuel?
Oui. Facile, hein, les gars.
C'est un sport individuel où tu concours seul, tu n'es pas dans un duel, enfin, quand tu concours, c'est-à-dire c'est pas du tennis ou... Non.
Tennis.
Heureusement qu'on a dit pas de questions relatives.
C'est du tennis. Tennis.
C'est du tennis ou pas?
C'est du tennis.
Ah,
ils sont excellents, c'est la chaleur, hein, ça, sans doute. Hein.
Ah, ça fait chier parce que je vais en dire un et ce sera l'autre, donc je vais dire Pete Sampras.
Non.
Bah j'ai... donc.
André Agassi?
Non.
Ah. Ah merde alors.
Attention, l'attention, chers abonnés, chers auditeurs.
Il est en activité?
Il n'est pas en activité.
Il n'est pas en activité. Jim Courier?
Okay. Non.
Jimmy Connors?
Non.
Ah. John Isner?
John Isner, oh, Aleksandar Nikolić, encore une fois. Encore une fois, encore une fois, Aleksandar Nikolić qui a pris un match nul.
Qui fait 2m15 et qui fait des services. Qu'est-ce qu'on a
fait? Le fait est que c'est pas mon problème parce que je suis l'animateur de cette émission et je choisis le sportif que je veux.
Jean-Patrick Durobert.
John Isner. Et le match le plus long de l'histoire face à Nicolas Mahut à Wimbledon, messieurs.
Bien sûr.
Absolument. Wimbledon, on s'en rappelle.
15-14.
On s'en rappelle.
De quoi 15-14 de quoi?
Non. C'est 36 à...
Non, 75 à quelque chose. En tout cas, 75-73 ou 74-72. T'as qu'à voir.
Alors, pour le coup, je te le dis, je ne l'aurais pas trouvé. Tellement pour moi, c'est vraiment un choix de merde. Voilà.
Je crois que c'est 59-57, moi.
Ça a aucun sens.
On peut vérifier avant qu'on rende l'antenne?
On vérifie avant qu'on rende...
Ça a aucun sens d'avoir choisi...
Parlez entre vous, 2 minutes, là.
Moi, je pense que c'est 70 quelque chose.
Ça n'avait aucun sens de choisir...
Encore une fois, en tout cas, Aleksandar Nikolić a joué avec Jérémy Boulogne.
Ça n'avait aucun sens de choisir Isner. Vraiment, vraiment. Je sais vraiment pourquoi je suis venu.
Alors, Isner et Mahut. Merci, encore je vous demande de parler entre vous. 70-68.
J'ai dit, ça commence par 70.
Moi, je dois dire, j'ai été déconcentré tout le long parce que...
J'ai dit.
Pardon?
Non.
Quoi?
Tu devais t'excuser.
Pourquoi?
Allez, excusez-vous entre vous et on coupe parce que les gens nous écoutent. Là.
Pas du tout, je parlais pas de ça, non? Okay.
Non, parce que j'ai dit que c'était ça et vous m'avez contredit.
Voilà. On coupe.
Oui, bah écoute, c'est le débat qui veut ça, mon cher Aleksandar.
J'ai du mal avec le débat.
Nicole. Oui, c'est. Bon, merci messieurs, c'était un plaisir comme d'habitude, on s'est bien amusé.
Merci, on s'amuse toujours.
Merci Aleksandar, merci Jérém.
Plaisir partagé.
Bah voilà, excellente journée, excellente soirée, messieurs. On essaye de faire un coup d'envoi la semaine prochaine, peut-être?
On essaye.
Allez, merci beaucoup. C'était coup d'envoi, c'était Frontières. Passez une excellente journée.
Coup d'envoi de 15h à 16h.
En fait, j'ai été déconcentré.